Aux Utopiales de Nantes, bonjour. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
Bonjour, je suis David Chauvel, le scénariste de bande dessinée.
Bonjour, je suis Jérôme Le Recrillet, dessinateur.
Alors, on va parler de votre œuvre commune chez Delcourt, donc Volodrine, une œuvre de fantasy assez marquante, assez percutante en diptyque. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Oui, oh bah, il s'agit d'une aventure assez classique de fantasy qui part du principe que un certain nombre de personnes qui ne se connaissent pas sont enfermées dans une cellule pour avoir commis divers crimes et méfaits et ils sont tous condamnés à la peine capitale. Quand soudain un homme fait irruption et leur propose un marché, les envoyer dans une mission plus ou moins suicide en échange d'une sortie de cette cellule. Et, ils vont tous plus ou moins accepter et se retrouver propulsés au cœur d'une longue et éprouvante aventure.
Qui est à l'initiative du projet ?
Nous deux, c'est quand on travaille comme Jérôme et moi depuis de longues années ensemble et qu'on a déjà fait pas mal de livres. Évidemment, on parle ensemble longuement et très en amont des choses qu'on va faire. Et puis, on avait fait une longue série consacrée à Arthur, qui n'était pas historique, mais qui avait des petits côtés un peu plus historiques, un peu plus documentés, un peu plus sérieux. Et ensuite, on avait de toute façon depuis longtemps l'intention de se lancer dans une histoire plus long cours de fantasy classique. Et on a eu la chance de pouvoir faire un galop d'essai avec 7 voleurs dans la mini-série 7 chez Delcourt, qui nous a permis de poser les premières bases de cet univers, les bases graphiques pour Jérôme, les bases scénaristiques pour moi, de voir comment ça fonctionnait. Et puis ça nous a fait une planche d'essai avant de se lancer vraiment dans ce qui pour nous, et on espère, sera une très longue aventure de fantasy qui démarre avec cette première histoire de Volodrine.
La formation de l'équipe, c'est vous qui vouliez dessiner tel type de personnage ou est-ce que ça s'est fait par hasard parce que fallait un nain, fallait etc.
Non, en fait, la formation de l'équipe, c'est le scénario. Hein. C'est donc c'est pas une demande de ma part par rapport à tel ou tel personnage. Mais David a peut-être des choses plus intéressantes à raconter ici.
Non, c'est pas une question d'être intéressant, mais c'est vrai que ce qui était évident, de toute façon, dont on a longuement discuté avant, c'était que notre histoire allait démarrer sur ce postulat, celui que j'expliquais tout à l'heure, et qu'ensuite elle va dévier. Et elle va notamment dévier quand nos personnages vont rencontrer les orques, qui étaient là, par contre, en effet, j'ai envie de dire qu'ils faisaient partie du cahier des charges graphiques. Ça c'est quelque chose dont on a parlé, c'est quelque chose que Jérôme voulait dessiner, voulait développer, et pas dessiner uniquement pour les montrer comme on les montre souvent, c'est-à-dire les ennemis qui sont là sur le champ de bataille pour massacrer ou se faire massacrer, mais on voulait développer un petit peu plus en avant leur vie en communauté, en clan, avec leurs enfants, car oui, ils se reproduisent, leurs femmes, etc. Donc ça faisait pas ça, c'était un peu, ça faisait quand même partie du cahier des charges de l'histoire. Après, voilà, je sais aussi, Jérôme dessine également extrêmement bien les nains, qui sont toujours des personnages très agréables à mettre en scène, et pour lui, et pour moi. Et puis là, on en a trouvé un qui est quand même assez tartiné. Et puis voilà, des humains. On a travaillé là-dessus pour c'était un peu le cahier des charges pour le premier diptyque, sachant qu'évidemment, on n'échappera pas aux elfes puisqu'on revendique de faire de la fantasy classique dans la lignée de Tolkien, de manière très humble, mais de manière totalement assumée. Donc on n'échappera pas aux elfes. On y réfléchit, mais c'est pas pour tout de suite. Ils arriveront en temps et en heure. Donc de toute façon, il y avait déjà ces trois composantes. On sait aussi que les gens qui fréquentent beaucoup les festivals ou qui connaissent bien le travail de Jérôme savent qu'il dessine également très 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 bien les dragons. Donc voilà, c'est des choses qui doivent arriver, mais chaque chose en son temps. Et puis le reste, c'est la base, c'est des humains. Et puis, comme il l'a dit, à un moment, l'histoire a ses propres obligations qui font que c'est elle qui décide.
C'était intéressant justement de dessiner une sorte d'humanité sur l'orque, hein, parce qu'il a quand même des expressions de visage, enfin, celui qui protège un petit peu, je veux dire. Il a des expressions de visage, une espèce d'empathie. Ça change un petit peu de l'orque barbare qui va agresser tout le monde.
Ah bah oui, mais c'était un des défis graphiques qui m'intéressait personnellement. Faire des orques plus, comme vous dites, un peu plus humains, avec des vraies expressions et pas juste des grosses bêtes sanguinaires. Oui, c'était super intéressant à dessiner.
Du coup, ça a demandé un travail beaucoup plus conséquent ou ça a coulé de source parce que justement il y avait un petit challenge, c'était agréable à faire, donc ça allait aussi vite finalement qu'autre chose.
Oui, non, c'est pas plus de travail, surtout que ça fait super longtemps que je m'entraîne pour faire ça. Donc ça fait vraiment, on va dire, une vingtaine d'années que je m'entraîne pour dessiner des orques et essayer de mettre au point et de faire quelque chose de correct. Donc, une fois que c'était lancé, mais j'étais vraiment bien préparé pour cette histoire.
Et sur les orques, vous les voyez plutôt côté humain ou est-ce que vous avez mis un petit côté animal dedans en vous inspirant de certaines créatures?
Ben, pour faire des orques, il faut prendre plusieurs éléments. En gros, tu prends du singe, tu prends du mec baraqué, et puis tu tiens compte de tout ce qui a été fait auparavant par d'autres illustrateurs talentueux. Et puis voilà, tu mixes le tout et tu sors, t'essayes de faire un truc un peu personnel, mais qui ne déroute pas trop le lecteur par rapport au fait que c'est un orque.
Il y a eu une exposition d'un certain nombre de planches de Volodrine. Est-ce que vous avez eu le choix des planches qui étaient exposées ou des...
Ah oui, bah là c'est un choix du galeriste. Oui, c'est lui qui a choisi les planches qu'il voulait exposer, qu'il voulait mettre en vente. Voilà, mais moi je trouve que son choix était sympathique. Ça m'a bien plu.
En dédicace, si vous donnez le choix au lecteur, quels sont les personnages qui sont le plus demandés en illustration?
Ben, je fais beaucoup d'orques. Je fais beaucoup le personnage féminin. Voilà. Et des nains aussi. Ouais, le nain, pas mal demandé. Le trio gagnant.
Donc, au niveau de Volodrine, ça va être. Ça devrait être une longue série, a priori. Ça sera composé à chaque fois de diptyques. Est-ce qu'on reprendra des personnages qui sont encore en vie du premier cycle?
Des rares survivants de la première aventure. Ouais, c'est, en fait, l'idée de base de Volodrine, c'est de... On n'a pas voulu faire une histoire à rallonge, une histoire en 8 tomes, en 10 tomes, etc. On n'a pas non plus voulu créer un héros ou un couple de héros qui soit, dont on déclinerait les aventures à l'infini, ou un groupe de héros. Il nous a semblé plus intéressant et plus inhabituel de faire en effet, alors pour l'instant des diptyques, après bon, je peux pas jurer qu'à la cinquième ou la sixième aventure ce sera pas sur un tome ou sur trois tomes, enfin ça dépendra en fait des servitudes et des impératifs de l'histoire. Mais il nous a semblé intéressant de développer plus qu'un des personnages, il nous a semblé intéressant de développer un univers. Donc en effet, on a vu des personnages dans la première histoire, on va en suivre deux dans la suivante, ensuite on va peut-être en retrouver un. Et puis on va évidemment faire apparaître de nouveau, et puis des personnages qu'on aura croisés dans telle aventure réapparaîtront au premier, au second ou au troisième plan de telle aventure. Des points qui ont été évoqués, des histoires passées, des batailles perdues, des légendes, etc., qui sont pas forcément mystérieuses en tant que telles dans chaque intrigue, mais dont on parle, pourront être le cœur de sujet de tel ou tel album. Voilà, il y a une espèce de côté mosaïque comme ça, puzzle. Et qui fait que je pense que c'est intéressant. Bon, pour nous, c'est intéressant parce que ça nous permettra de changer de registre, parce qu'on pourra passer d'une histoire très classique comme celle du 1 à une histoire plus de genre comme celle qu'on est en train de faire en ce moment. On peut aussi passer une espèce de. On peut imaginer un polar médiéval, une histoire sentimentale, une histoire de guerre, une histoire de vengeance, une histoire. Voilà, tout est possible. Et puis, je pense que pour les lecteurs, c'est aussi intéressant parce qu'ils sauront jamais ce qui les attend derrière. Et l'idée, c'est aussi. On avait démarré avec une histoire plus classique sur le tome 1. Je pense qu'elle prend des tournures un peu plus surprenantes et plus originales sur le deuxième tome. Et j'espère qu'on va. Nous, le but, c'est de dévier après de ce classicisme attendu et de faire des choses plus surprenantes dans les albums suivants.
Vous vous êtes construit une carte du monde ou est-ce que vous vous laissez sans limite dans votre capacité de raconter, d'imaginer?
Non, en fait, je pense qu'on va à un moment, on va le limiter, mais il est en train de se créer. Donc, en fait, la carte, on la dessine au fur et à mesure qu'on avance, mais évidemment, il ne faudra pas qu'elle soit infinie. Donc, de toute façon, je pense qu'à un moment, on va atteindre les bordures, mais c'est trop tôt. Parce que quand on aura parlé d'enjeux un peu plus massifs, parce qu'on a parlé un peu des nains, tout à l'heure, on a évoqué les humains, les orques, on n'a pas encore parlé des elfes. Je pense que quand on aura déjà bouclé les quatre espèces dominantes, on pourra commencer à voir un petit peu quels sont les tenants et aboutissants de notre univers et on pourra penser à le fermer. Mais pour l'instant, c'est trop tôt, donc il se dessine au fur et à mesure.
Une idée de la date de parution de la suite, parce que là, ça a été très très rapide en fait sur les deux premiers tomes, ce qui était appréciable, je pense, pour les lecteurs.
Oui, mais c'était l'idée. On a sorti le volume 1 quand on était déjà bien avancé sur le volume 2, ce qui permet en effet aux gens d'avoir la première et la deuxième partie de l'histoire dans une même année. Et on va garder ce rythme puisque le troisième tome sortira à la fin de l'été 2012.
Et vous travaillez de quelle façon du coup pour avoir ce rythme-là? Vous êtes en traditionnel?
Oui, je suis en traditionnel avec une petite assistance par ordinateur pour le cadrage, en fait. Si vous voulez, je sépare la partie crayonnée dessin de la partie cadrage dans les cases. Donc le cadrage, je le fais sur ordinateur, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite, de gagner beaucoup de temps. Et donc, après, donc, c'est le résultat, c'est les planches sur papier, mais il y a une petite assistance par ordinateur qui me fait gagner du temps.
Et qui permet d'être prolifique, puisque bon, il y a quand même eu pas mal d'albums. Là, vous avez parlé des séries de fantasy. Il y a des séries, des one-shots comme Veillée Funèbre, par exemple, plutôt sur du fantastique. Ça permet de diversifier peut-être au niveau de votre travail.
Ça c'est récent, l'histoire de l'ordinateur, ça fait que deux albums que je le fais. Mais oui, autrement au niveau du côté prolifique, oui. Disons qu'il y a plein d'univers intéressants, il y a plein de choses intéressantes à dessiner. Puis moi, je suis un peu monomaniaque au niveau du dessin, donc effectivement, je produis.
En musique?
Oui.
Est-ce que vous travaillez en musique?
Vous produisez en musique?
C'est variable en fait. Il y a des périodes où c'est le silence, il y a des périodes où j'écoute la radio, puis il y a des périodes effectivement où je mets de la musique. C'est un peu variable suivant les l'inspiration. En ce moment, ouais, un petit peu. Je mets un peu de musique, ouais.
Et vous aussi, quand vous créez le scénario, musique ou pas musique?
Alors moi, j'ai écrit tout Volodrine en écoutant une seule musique, c'est la bande originale de Conan. Oui. Et la nouvelle version, celle qui a été réorchestrée,
oui,
réarrangée. Ouais.
Avec les compos, enfin, avec les partitions originales.
Oui, tout à fait. Voilà, dès que je l'ai commandé, dès que c'est sorti là-bas, chez eux, et j'ai écouté que ça, en fait, à chaque fois que je l'écrivais. Mais par contre, je l'écoutais pas le reste du temps. C'était consacré exclusivement à ça. Voilà, bon, pour la prochaine histoire, je sais pas, on verra.
Et est-ce que vous avez une idée de bande-son à écouter en même temps qu'on lit Volodrine?
Ah bah, je crois que j'ai répondu à la question. Il n'y en a pas d'autres, hein, mais enfin, de toute façon, parmi les auteurs de BD, les dessinateurs, c'est un grand classique, hein, tout le monde l'écoute. Je crois que ça revient tout le temps, on a ça ou Wagner. Mais non, c'est. Il faut dire que c'est une sacrée pièce, et puis c'est long. Il y a du matériel. Bon. Ouais, ça dure longtemps. Et puis, ouais. Ah, tu l'écoutes pas?
Moi, j'écoute que du métal, moi. oui, j'écoute que du métal, désolé.
Des noms?
Je suis resté sur mes vieux trucs. J'écoute Death, Coroner, Sod, choses comme ça.
D'accord.
Voilà.
Mon Dieu, je veux pas savoir.
C'est pas grave, on passe les deux, la bande originale de Conan et le métal.
Un mot sur l'ambiance des Utopiales?
Alors, très cool. Moi, je trouve, c'est la première fois que je viens. Et alors le côté multimédia, c'est vachement intéressant, puisque nous on a plutôt l'habitude de faire des festivals uniquement bande dessinée, ce qui est très bien, mais c'est bien de s'ouvrir sur autre chose, et je trouve que le lieu est quand même exceptionnel pour faire des rencontres de cette ampleur. Et justement hier on discutait, on se demandait pourquoi il n'y avait pas un gros festival de bande dessinée ici, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Vraiment c'est un endroit exceptionnel, puis en plus il fait super beau, donc c'est très très agréable.
Récemment par exemple il y a eu une sortie jeunesse, Les Enfants d'Evernight. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment s'est monté le projet et puis comment vous avez été chercher les auteurs?
Alors les auteurs des Enfants d'Evernight, je les ai trouvés sur un forum de dessinateurs qui s'appelle le Café Salé, voilà, sur lequel je passe régulièrement, et à l'époque ils étaient en train de monter leur projet, et j'ai les planches de Marc, le dessinateur, m'ont tapé dans l'œil tout de suite. J'ai vu qu'il y avait quelque chose, quoi. Et puis ils étaient en train de monter le projet façon manga. Ils avaient un contact avec un éditeur français qui, à l'époque, essayait de faire du manga en France. Donc, moi, je connaissais les conditions, notamment financières, qui étaient proposées, qui étaient assez désastreuses. Non pas que je jette la pierre à l'éditeur, il essayait de fabriquer du manga à la française, mais les impératifs et les cahiers des charges sont tels que on peut pas. C'est très difficile, enfin, pour l'instant, c'est impossible de faire ça en France et d'offrir aux gens la possibilité de gagner leur vie correctement. Et donc, je suis entré en contact avec eux, et je leur ai dit, voilà, j'aime bien votre projet, est-ce que je peux lire le scénario? Et puis ensuite, une fois que Mélanie m'a passé son scénario, que j'ai beaucoup aimé, je leur ai proposé de transformer leur projet pour le passer en 46 planches couleurs plus traditionnelles franco-belges, en leur disant, voilà, c'est pas obligé, si vous avez envie de rester sur un manga, bah écoutez, faites-le. Mais moi, je vous propose ça. Et en fait, ils avaient surtout envie de raconter leur histoire. Ils n'avaient pas de religion précise sur la forme. Et donc, on a commencé à travailler comme ça. Voilà, ça a été un petit peu long, parce que Marc faisait son premier album, parce qu'il y a eu des... Il y a eu des choses personnelles un peu compliquées, donc il a fallu y passer beaucoup de temps. Mais bon, je pense que ça a valu le coup, donc il est sorti en fin d'année, enfin en fin de
en fin d'été. Il était beau, il était, on était tous très contents. Et on travaille d'arrache-pied pour. Il a été bien accueilli, on travaille d'arrache-pied sur le deuxième volume. Voilà, ça se passe bien, je suis content de cette série. C'était une belle aventure.
C'est une volonté d'avoir une section jeunesse, enfin une collection jeunesse hyper dynamique. Parce que là, enfin, un album comme ça, c'est vraiment moderne. Ça croise un petit peu les genres au niveau du dessin. Ça fait plusieurs albums quand même au niveau de chez Delcourt qui a un côté jeunesse très péchu comme ça.
Je crois qu'en fait, ça, c'est le résultat d'un hasard. C'est que Guy a accepté. On en discutait hier entre auteurs ce phénomène qu'est les légendaires. Un projet qu'il a reçu et qu'il a signé dans la foulée parce qu'il y a vu quelque chose, il y a cru tout de suite. Il y avait aussi une série qui est montée en puissance qui s'appelle La Rose Écarlate, et ce qui fait qu'il y a eu deux grosses locomotives comme ça sur ce genre de collection. Et derrière, en effet, on a signé et sorti plusieurs séries différentes. Bon, les autres, ce sont, moi je peux pas parler pour les autres puisque c'est pas moi qui m'en occupe en tant qu'éditeur. La seule dont je m'occupe pour l'instant, c'est Les Enfants d'Evernight, et c'est vrai que il y a une espèce d'unité comme ça qui est en train de se former autour de la collection qui est intéressante et qui est vachement dynamique.
Du coup, est-ce que ça serait intéressant d'illustrer quelque chose plus jeunesse? Parce que pour l'instant, c'est quand même plus adulte, même si c'est de la fantasy ou du fantastique. C'est vraiment plus des scénarios qui sont aboutis, enfin, qui sont plus développés pour des adultes, on va dire.
En jeunesse, on a fait un album jeunesse, David et moi, Séraphin et les Émeraudes de la Forêt. Mais personnellement, c'est la seule envie que j'avais au niveau jeunesse. Autrement, non, pour l'instant, j'ai pas vraiment beaucoup d'envie à ce niveau-là.
Pour terminer nos interviews, cette année, on a une question qui est une sorte de rêve impossible. À savoir, si on vous donnait la possibilité de collaborer avec un artiste ayant existé, quel que soit le domaine artistique, qui serait cet artiste et quel serait votre projet ?
Moi, j'ai bien travaillé avec Caravage pour qu'il m'apprenne le côté technique de l'affaire. Ça m'intéresse.
Ah, moi, j'aurais bien aimé adapter des trucs de. J'aurais bien aimé travailler, faire une bande dessinée avec Prévert. Mais il est mort, ça lui apprendra à fumer comme un pompier. Mais je vais le faire bientôt. Mais ce sera sans son approbation. Il sera pas là pour me taper dans le dos et me dire oh, c'est pas mal.
Merci beaucoup.
Merci.